puis il y a deux semaines, on s'est arrêté sur deux parties de cette armure. C'était le bouclier de la foi et le casque du salut. Et puis Corinne, qui prêchait, nous disait avec le bouclier de la foi, on peut arrêter les traits enflammés du malin. En fait, c'est un terme pour dire le péché. Hein. Et puis, en même temps que ça, dans le lecteur, pour ceux qui suivent le lecteur, on lisait Exode, à peu près en même temps, hein, pas exactement. Et puis, j'avais relu l'épisode du veau d'or. Et puis, ces deux réflexions ensemble m'ont questionné sur la solidité de la foi. La solidité de la foi des Israélites d'alors, et puis la solidité de ma foi ensuite. Et puis j'ai eu envie donc de réexplorer un petit peu ce texte bien connu avec vous, pour en tirer quelques observations, certaines que j'ai mises un peu provocantes. Mes quatre observations un peu provocantes, c'est « Les miracles ne produisent pas la foi, le temps de Dieu n'est pas le nôtre, nos solutions ne sont pas celles de Dieu, et Dieu n'est pas celui que nous imaginons. » Voilà un peu mes quelques observations provocantes, je vais les explorer avec vous, et puis je terminerai par un point qui me paraît vraiment hyper important pour avoir une foi solide, c'est la relation, et puis ça sera ma conclusion. Pour commencer, je vous invite à lire Exode 32, les versets 1 à 10, c'est le texte du veau d'or. « Quand le peuple s'aperçut que Moïse tardait à redescendre de la montagne, il se rassembla autour d'Aaron. » et lui dit « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Aaron leur répondit « Détachez vos pendants d'or des oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Aussitôt, tous se défirent des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin, et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria, « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte !» Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis il annonça à haute voix, « Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. » Le lendemain matin, le peuple se mit à offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Ensuite, il s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse, « Va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Puis l'Éternel ajouta, « Je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Et maintenant laisse-moi faire. » Ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » On arrête ici notre lecture. On va commencer par ce qui me choque le plus en lien avec ce texte. Et pour ça, il faut que je vous donne un peu de contexte. C'est le vécu miraculeux du peuple. En fait, ce qui s'est passé, pour donner le contexte, c'est que ça fait à peu près 3 mois que le peuple... Il est dans le désert, à peu près, 3-4 mois, après la traversée miraculeuse de la mer des roseaux. Vous connaissez certainement cet épisode. Et puis dans ce laps de temps, il s'est passé un nombre incalculable de miracles. Enfin, incalculable, c'est une expression. Il s'en est passé beaucoup, et des miracles vraiment hyper impressionnants. Et puis c'est vrai que nous, on a l'habitude de dire « Oh, on voit des miracles dans nos vies ». Et puis là, je me permets une petite digression mathématiques. En préparant ce texte, je suis tombé sur la loi de Littlewood. J'aime beaucoup les maths, alors ça m'a bien intéressé. C'est un mathématicien à Cambridge dans les années 1950, athée, qui voulait démontrer finalement que les miracles, on peut bien les expliquer. Puis ce qu'il dit, c'est, il dit, en fait, on va dire qu'un miracle, c'est un événement exceptionnel qui se passe une fois sur un million. Un événement qui se passe une fois sur un million. Et puis il dit, mais finalement, dans nos vies, si on est réfléchi, des événements, on peut dire qu'on en vit peut-être une fois toutes les secondes. On entend quelque chose, on lit une parole, on voit quelque chose dans la nature. Il dit, si on dit qu'on vit un événement une fois toutes les secondes, et puis qu'on définit un miracle comme quelque chose qui arrive qu'une fois sur un million, qui est vraiment hyper impressionnant, Il dit, ben, si on fait le calcul et qu'on est réveillé 8 heures par jour et qu'on a un événement par seconde, ben, statistiquement, ce qui va arriver, c'est qu'à peu près tous les 35 jours, on va vivre ce qu'on appelle un miracle. Et du coup, il dit, ben, voilà, ça montre que ben, finalement, les chrétiens et leurs miracles, ce n'est pas si impressionnant que ça. Voilà sa conclusion. Mais là, dans le texte de l'Exode, j'ai fini ma digression, on parle de miracles qui sont quand même autrement plus impressionnants. Bon, on a parlé de la traversée de la mer Rouge, hein, de la mer des Roseaux. On peut bien s'imaginer que si on reste très longtemps en face de la mer des Roseaux, on peut attendre 35 jours, elle ne va pas s'ouvrir en face de nous toute seule. Et puis je vous fais la liste des quelques miracles qu'ont vécu les Israélites entre ce moment-là et le moment du veau d'or. Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, ils avaient très soif, ils arrivent à un endroit et il y a une source d'eau qui est corrompue, et Dieu dit, ben, lance un bâton dans cette eau, et cette eau deviendra pure. Un miracle incroyable. Ils avaient faim, Dieu envoie des cailles, de la manne. Ce qui est aussi incroyable, c'est que la manne, faut pas en prendre trop parce qu'elle pourrit, sauf le jour du sabbat. Là, on peut en prendre pour 2 jours, et elle pourrit pas. Encore un miracle incroyable. Ensuite, il y a une autre fois où ils ont soif, et ils disent, mais Dieu va me faire mourir, Dieu veut nous faire mourir. Et ben, ce que dit Dieu, ben, il dit Dieu, et Dieu dit à Moïse, ben, prends ton bâton, tape sur ce rocher, et il y aura de l'eau qui va en sortir. Il y a aussi un épisode de guerre, où tant que Moïse levait les mains, Dieu bénissait le peuple et il gagnait la guerre. Ça aussi, c'est des miracles impressionnants. Puis ensuite, ben, il y a eu la manifestation de Dieu sur le mont Sinaï, où Dieu il va parler directement au peuple, il va leur donner les 10 commandements, il va parler, ils vont voir du tonnerre, des éclairs, des choses incroyables, le feu de Dieu. Voilà tous les miracles qu'ils ont vécus en 3 mois. Et puis ben, après, si on revient un tout petit peu en arrière, il y a aussi eu les plaies d'Égypte. Enfin, ils ont un vécu miraculeux, comme en tout cas moi j'en ai jamais eu, et je pense que vous peut-être probablement pas. Et puis on peut s'imaginer que grâce à ça, ils auraient une foi à déplacer les montagnes, qui croient vraiment en Dieu d'une manière incroyable. Mais en fait, on voit dans cet épisode qu'après 40 jours d'absence de Moïse sur la montagne, leur foi, elle est mise à l'épreuve d'une manière incroyable. Ils ont un peu oublié tout ça. Puis c'est très intéressant pour nous parce que moi, je me dis souvent dans ma vie que ma foi serait plus forte si je vivais plus de miracles, eh bien, ce texte semble nous montrer le contraire. C'est vrai que nous, on a aussi nos miracles, si on y réfléchit. Hein. On vit des choses fortes avec Dieu, et notre foi, quand on y réfléchit, elle n'est pas toujours à la hauteur. Et spécialement, et ça m'amène à mon deuxième point, quand le timing de Dieu n'est pas le nôtre, ou le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Moi, j'ai le souvenir d'un voyage au Cameroun, ça fait très longtemps, et puis un Camerounais me disait, en Suisse, vous avez des montres, mais nous, ici, au Cameroun, on a le temps. Et puis ça m'avait vraiment marqué, parce qu'effectivement, pour moi, c'était un des chocs culturels les plus importants, c'était la vision du temps de là-bas. Par exemple, un truc qui me surprenait et des fois m'ennuyait, c'est qu'on entrait, on allait au culte, régulièrement on avait des célébrations chrétiennes et tout, on allait au culte et puis on savait quand on entrait, à peu près, hein, plus ou moins 30 minutes, mais alors pour savoir quand on allait sortir de la salle de culte, il n'y avait aucune idée. Des fois ça pouvait être 1 heure, des fois c'était 3 heures. Et puis ben, pour nous Suisses, ou pour moi Suisse, c'était des fois pénible. Je me disais, ah, ben, j'aimerais bien savoir quand on va sortir de cette salle de culte. Et puis ben là, on remarque que ils vivent un peu la même épreuve, ces Israélites, mais en vachement plus violent, parce qu'ils ne savent pas quand Moïse va revenir. Ils ont perdu le contrôle du timing. Moïse ne leur a pas dit « je reviens dans X temps », ils attendent au pied de cette montagne, et après 40 jours, c'est hyper difficile pour eux. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? Ben, quand à un moment ils n'en peuvent plus, ils disent ben, « voilà, il faut qu'on fasse quelque chose, Aaron, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, fabrique-nous un Dieu. » Et puis, c'est intéressant de se dire que quand on y réfléchit dans nos vies, en tout cas pour nous, Suisses, avec ma vision du monde, parce que je pense qu'au Cameroun c'est un peu différent, mais nous on a besoin d'avoir un bon timing pour avoir du contrôle. Si on veut planifier notre journée, on doit savoir, on se lève à telle heure, on fait tel truc, Voilà, on a une bonne vision du timing, et puis comme ça, on peut contrôler notre journée. Alors que dans la foi, en fait, c'est le contraire. C'est le contraire, on perd le contrôle. Avoir la foi, c'est justement dire à Dieu, ben, je te donne le contrôle, et du coup, ça fait qu'on perd aussi la notion du temps. Le timing de Dieu, on ne le sait pas forcément. Puis c'est intéressant parce que c'est une thématique que Pierre aborde dans sa deuxième épître, et là je vous lis quelques versets, les versets 3 et 4 du chapitre 3 et les versets 8 et 9. Voilà ce que Pierre dit aux chrétiens. « Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, Dieu a promis de venir, mais c'est pour quand ? Nos ancêtres sont morts depuis que le monde est monde, et rien n'a changé. » Et puis après, il continue un peu plus, et puis au verset 8 et 9, il dit « Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Dieu fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Au contraire, il voudrait que tous parviennent à se convertir. » Voilà ce que dit Pierre, il dit, ben, dans la fin des temps, je pense qu'on vit aussi un peu dans la fin des temps, il dit, ils tourneront votre foi en ridicule, ou ils mettront votre foi à l'épreuve, en disant, ben, Dieu, on ne le voit pas. Ça fait tellement longtemps qu'on dit que Dieu existe, mais on ne voit pas son action, on attend sa venue, on attend une action drastique de Dieu qui changerait le monde. Et je trouve que c'est encore un argument qu'on entend beaucoup hein, parmi nos contemporains, quand on parle de Dieu, il y en a beaucoup qui disent, ah, mais ah, si Dieu existait, on le verrait plus. Pourquoi il y a toutes ces guerres? Ça fait tellement longtemps que le mal existe. C'est vraiment cette notion de challenger le timing de Dieu, où ben c'est une vraie pierre d'achoppement pour la foi des gens. Et puis c'est ce que Pierre doit nous rappeler, c'est que le timing de Dieu, il est contraire à notre timing. Pour nous, un jour, ben c'est comme 1000 ans pour Dieu, et vice-versa, 1000 ans pour Dieu, c'est comme pour un jour pour nous. Et donc, quand notre foi est mise à l'épreuve parce qu'on attend des choses et qu'on ne comprend pas bien le timing de Dieu, rappelons-nous de ce texte et rappelons-nous que ben, ce n'est pas à nous de savoir le timing de Dieu. Et puis Jésus, il a dû dire aux disciples exactement la même chose, parce que les disciples ils disaient, mais quand est-ce que tu vas revenir? Et Jésus, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, mais ce n'est pas à vous de savoir le timing de Dieu. Et ce qui est important de nous rappeler, quand on est mis à l'épreuve, finalement, de cette manière, avec un timing qu'on ne comprend pas forcément. Je pense qu'il y a un texte, une partie en filigrane que Pierre rappelle, c'est qu'il dit, ben, pourquoi est-ce que Dieu attend dans son timing? C'est pour que tous puissent se convertir. Dieu nous aime et il veut des bonnes choses pour nous. Et nous, on ne le voit pas forcément et c'est la chose à se rappeler, même si on ne comprend pas exactement ce que Dieu fait. C'est important de se rappeler que Dieu nous aime. Et puis, ben, quand le timing de Dieu n'est pas le nôtre, qu'est-ce qui se passe? Naturellement, on cherche à trouver notre propre solution. Et puis là, c'est mon troisième point, nos solutions ne sont pas celles de Dieu. Moïse, on l'a lu dans ce texte de l'Exode, il met trop de temps à redescendre, alors le peuple se sent abandonné, il va trouver sa propre solution, se faire un Dieu qui marchera devant lui. Et l'histoire des chrétiens, ou du peuple de Dieu, c'est parsemée de ces exemples où on cherche nos propres solutions plutôt que celles de Dieu. Récemment, on avait aussi un message sur le bon larron, vous vous rappelez? Le bon larron, c'est ce brigand, c'est le premier saint aussi, hein, c'est ce brigand qui est à côté de Jésus et qui dit « Souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Puis de l'autre côté, il y a je l'avais appelé le mauvais larron, hein, par contradiction avec le bon larron, c'est l'autre brigand qui se moque de Jésus et qui lui dit « Seigneur, si t'es vraiment Dieu, t'as qu'à descendre et puis sauve-nous avec, quoi. » S'il veut apporter sa propre solution à Dieu, contrairement à l'autre qui dit « Seigneur, souviens-toi de moi, fais ton plan et quand tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi. » Ces exemples un peu, je dirais, caricaturaux ou très forts, où on voit le peuple qui se crée sa propre idole comme solution, ou alors l'histoire des brigands, ça peut paraître un peu grossier. Et puis, c'est très clair que ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il y a aussi plein d'exemples où on dit, on change, on se déplace un tout petit peu de la volonté de Dieu, et pourtant, ça ne reste pas non plus la volonté de Dieu. Et pour ça, je vous lis un exemple que je lisais dans 1 Samuel. 1 Samuel au, verset 13, au chapitre 13, et on commence au verset 7. On parle de Saül. Saül, c'est le premier roi. Et puis, il va faire une petite différence avec le plan de Dieu, et là, je vous le lis. Saül était toujours à Gilgal, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. C'est la guerre. Il attendit 7 jours le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül dit, « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. » Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, « Qu'as-tu fait ?» Saül lui répondit, « Quand j'ai vu que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Micmash, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi, à Gilgal, avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi comme un insensé, tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël et il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui corresponde à ses désirs et de l'établir chef de son peuple. » Donc, qu'est-ce qu'on lit dans ce texte ? C'est Saül, une fois de plus, pressé par le temps. Hein, il y a les soldats qui désertent, c'est quelque chose de vraiment critique. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il a la solution de Dieu. Puis, il a une petite idée. Il dit, je vais chercher ma propre solution. Je vais offrir moi-même ce sacrifice, même si Dieu m'avait dit que, enfin, ou Samuel m'avait dit de l'attendre. C'est la seule petite différence, hein. C'est pas immense. On se dit, il offre lui le sacrifice. Eh bien, pour Dieu, et à travers Samuel, il explique que cette petite différence, c'est en fait une énorme différence, parce qu'il n'a pas eu confiance dans le plan, dans la solution de Dieu. Et ça, c'est cette thématique qu'on revoit aussi dans le veau d'or, la solution de Dieu, ce n'est pas la même que celle des hommes. Et puis ça m'amène à mon avant-dernier point, qui est « Dieu n'est pas celui que nous imaginons ». C'est intéressant cette idée de faire un veau d'or. On va relire le début de ce texte. Il dit « Allons, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » Et puis, je lis un peu plus loin au verset 4. « Celui-ci les reçut de leurs mains, donc l'or, façonna l'or au burin, et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria, « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait sortir d'Égypte. » Le peuple, à ce moment-là, il ne comprend pas bien Dieu du tout. Il a peur de Dieu. C'est ce qu'on verra tout à la fin, dans la dernière partie. Donc, à la première opportunité, qu'est-ce que va faire le peuple ? Il se construit son propre Dieu. Et je trouve ça très, très instructif. En fait, le peuple, il va choisir quelque chose de familier. Il va choisir une forme familière, un veau, probablement similaire à ce qu'il a vu en Égypte. Hein, le peuple, il vient de sortir d'Égypte. Et puis, si vous vous rappelez, les divinités égyptiennes, c'est des représentations d'animaux. C'est ça, les dieux. Donc, il reprend un peu ce qu'il a connu. Et puis, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, on a un veau, on lui donne une mission. Sa mission, qu'est-ce que c'est ? C'est de marcher devant nous. Marcher devant nous, ça nous rappelle aussi quelque chose. C'était la colonne de Dieu qui marchait devant le peuple. Le peuple avait la colonne de Dieu qui marchait devant physiquement. Et là, ce veau, il va reprendre ça. Et puis, il lui donne un statut aussi, le peuple. Il lui dit, ça c'est ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Donc, qu'est-ce que fait finalement le peuple avec ce veau d'or ? Il va faire, il va enfermer Dieu dans une boîte, ou plutôt il va enfermer Dieu dans un veau d'or. Et puis, cet enfermement de Dieu dans une boîte ou dans un veau d'or, c'est un peu l'histoire du peuple de Dieu, de la Genèse à aujourd'hui. En tant qu'humain, on a la tendance à essayer de mettre Dieu dans une boîte, parce qu'on ne le comprend pas très bien, parce que Ouais, c'est difficile en fait de s'abandonner à un Dieu qui est tellement différent de nous. Et puis du coup, il y a cette thématique de mettre Dieu dans une boîte. Puis les Israélites, ils ont essayé de nombreuses fois, ça s'est passé toujours très mal. Je vous donne un exemple, par exemple, dans 1 Samuel 4, où là, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer d'utiliser l'Arche de l'Alliance, comme, où ils mettent Dieu dans cette Arche de l'Alliance. C'est de nouveau une guerre hein, contre les Philistins, vous savez qu'il y a beaucoup des histoires de guerre. Et là, je vous lis encore deux versets, c'est dans 1 Samuel 4. « Les Philistins se rangèrent en ordre de bataille pour affronter les Israélites. Le combat s'amplifia, les Philistins défirent les Israélites et tuèrent dans leur rang environ 4000 hommes sur le champ de bataille. Lorsque le peuple regagna le camp, les responsables d'Israël se demandèrent « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il fait battre aujourd'hui par les Philistins ?» Allons chercher le coffre de l'Alliance de l'Éternel à Silo et ramenons-le au milieu de nous pour qu'il nous délivre de nos ennemis. » Voilà, ça c'est la réflexion. Ils se disent, bon, on va mettre Dieu dans ce coffre de l'Alliance, on va le prendre vers nous et là on va gagner cette bataille. La conclusion, ils perdent une bataille terrible, 30 000 morts et ils perdent le coffre de l'Alliance. C'est un exemple où on essaye de mettre Dieu dans une boîte. Ou même un exemple plus proche, dans la prière. Jésus, quand il enseigne le Notre Père, juste avant ça, qu'est-ce qu'il doit dire? Qu'est-ce qu'il va dire aux disciples? Et on lit ça dans Matthieu 6. Il dit, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. On ne peut pas forcer la main de Dieu. Ce n'est pas par des rites ou des choses ou essayer de le mettre dans une boîte qu'on arrivera à forcer la main de Dieu. Et ben, je nous encourage, parce que moi, en voyant dans ma vie, des fois, je me dis, ah ben, j'ai un peu cette tendance à essayer de mettre Dieu dans une boîte. Je me dis, ah ben, si je fais mieux ça, Dieu alors fera plus ça. Si je fais plus ça, alors Dieu... Et c'est une façon de se dire, ben, je vais essayer de gagner la faveur de Dieu en faisant certaines choses. Donc je vous encourage, nous encourage chacun à nous examiner honnêtement à ce sujet. Et pour conclure, ben, à travers ce texte du Veau d'Or, on a vu plusieurs observations qui n'ont pas forcément favorisé la foi, si j'ose dire, ou qui ont été des pierres d'achoppement ou des challenges pour la foi, si on utilise un terme un peu plus d'aujourd'hui, plutôt que pierres d'achoppement. La vraie question, en conclusion, c'est qu'est-ce qui va favoriser notre foi? Pour ça, je vous propose une clé de lecture que j'ai encore lue en relisant l'Exode. C'est en Exode 20, je vous lis deux versets. C'est juste avant, c'est quand Dieu se manifeste au peuple. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son du cor et voyait les éclairs et la fumée qui enveloppait la montagne. Donc ça, c'est la présence de Dieu. À ce spectacle, ils se mirent tous à trembler de peur et ils se tinrent à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'obéirons, mais que Dieu ne nous parle pas directement, pour que nous ne mourions pas. » C'est intéressant comme clé de lecture, en fait. Le peuple a peur de Dieu. Le peuple, qu'est-ce qu'il veut? Il veut un intermédiaire entre lui et Dieu. Et on est vraiment à cette époque-là, dans cette époque où le peuple connaît que très peu Dieu. Il a peur d'avoir une relation avec lui. Et puis, ben, il y a cette thématique de la révélation progressive. Dieu s'est révélé au peuple et il va se révéler de plus en plus à travers toute l'histoire de la Bible. Et c'est avec l'arrivée de Jésus qu'il y a finalement la quintessence de cette révélation, ou peut-être même avec la venue du Saint-Esprit, c'est ce qu'on célèbre ces quelques temps. À l'ascension, Jésus dit, ben, il y aura quelqu'un qui va venir, il y a le Saint-Esprit qui va venir, et puis à la Pentecôte, c'est là que vient le Saint-Esprit qui habite en nous. Et ça, c'est l'aboutissement, finalement, de cette révélation, parce que nous, aujourd'hui, on peut avoir cette relation direct avec Dieu, plus besoin d'avoir d'intermédiaire. Et là, ben c'est ce que je voulais mettre en comparaison, c'est quand on a cette relation avec Dieu, c'est là qu'on voit Dieu pour qui il est. On n'a plus besoin de l'imaginer ou de le rendre plus compréhensible. Ou quand on est en relation avec Dieu, c'est là qu'on le laisse transformer nos solutions. Nos propres solutions, si on les met, si on les présente à Dieu, Dieu peut les transformer pour qu'elles soient selon son cœur. Et là, ben, pour conclure, ce que je vous invite, c'est ben, il se peut arriver que dans nos vies, il y ait des domaines où on a peur de nous ouvrir à Dieu, d'entrer en une réelle relation avec lui. Il peut y avoir des pans de nos vies qu'on préfère laisser un petit peu avec des intermédiaires, un peu laisser dans une zone un peu sombre, alors que Dieu nous invite à lui ouvrir toute sa vie. Ça peut prendre de nombreuses formes, ces intermédiaires. Et donc, pour conclure, ce que je nous invite à faire, c'est de nous examiner chacun et d'inviter Dieu à entrer en relation avec nous dans tous les domaines de nos vies. Et je vais prier. Seigneur, on arrive à cette période de l'Ascension et de la Pentecôte où tu nous as envoyé le Saint-Esprit. Seigneur, je te prie de nous transformer chacun à travers la présence du Saint-Esprit. Ouvre nos cœurs, aide-nous à ouvrir nos cœurs pour qu'on soit en relation directe avec toi. Seigneur, permets-nous de vivre une vraie relation avec toi. S'il y a des domaines dans nos vies, Seigneur, qui sont pas encore mis sous ta lumière, je te prie de les prendre et de les mettre à ta lumière. Donne-nous, Seigneur, le courage de nous ouvrir et de vivre entièrement proche de toi. Seigneur, merci pour ton amour. Merci parce que tu nous appelles chacun et tu veux nous connaître chacun. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es celui qu'on ne comprend pas toujours, mais pourtant tu t'intéresses à chacun de nous. Et Seigneur, je veux te remercier pour ça et te demander de nous habiter et de nous bénir. Amen.